Montrer les coulisses des tiers-lieux, c'est la mission que l'ANCT, l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, a confiée à l'équipe du WIP. Pour comprendre comment on monte un tiers-lieu, comment il fonctionne au quotidien, quels partenariats se créent entre des acteurs publics, privés, associatifs, citoyens, pour faire vivre ces projets. Nous allons aller visiter 7 tiers-lieux, labellisés par l'État Fabrique de Territoires, tous très différents. Nous allons aller à la rencontre des gestionnaires des tiers-lieux, des partenaires de projets, des utilisateurs, des élus, des techniciens, qui vont nous raconter comment le projet s'est construit, comment il est perçu, comment il fait évoluer les acteurs du territoire et comment il transforme les façons de faire. Ensemble, on va parler des difficultés et des succès, de la genèse à la transmission des projets. Dans les coulisses des tiers-lieux, on met en lumière ce qu'on ne voit pas pour vous aider à mieux comprendre ces lieux si singuliers. Épisode 5, la Dynamo. Aujourd'hui, on se rend à la Dynamo, un tiers-lieu municipal labellisé Fabrique numérique de territoire en 2020. Le tiers-lieu est situé à Chambéry, ville de 60 000 habitants en Savoie. Nous allons rencontrer le gestionnaire du tiers-lieu, un élu et un groupe de jeunes usagers du lieu. Avec eux, nous allons comprendre comment s'organise le portage du tiers-lieu par une municipalité, comment la question du numérique est traitée et nous allons également nous pencher sur le Fab Lab municipal installé à la Dynamo. Pour débuter cet épisode, nous interrogeons Samuel Caillot, directeur de la vie associative et des tiers-lieux au sein de la ville de Chambéry. Il nous présente la Dynamo et ses espaces.
La Dynamo, c'est un lieu municipal. On est un lieu public géré par la collectivité, qu'on dénomme comme hybride. C'est un bâtiment qui a déjà la spécificité d'être posé à l'entrée d'un quartier politique de la ville, donc sur les Hauts-de-Chambéry. Donc c'est un lieu qui est plutôt grand, qui fait 1200 m² exploitables et qui se divise en 4 grands sujets. À la fois, c'est un espace partagé, comme on retrouve beaucoup, entre des services de la ville de Chambéry et des associations et des acteurs privés aussi qui cohabitent, donc par du bureau, du coworking, sur des thématiques autour de la jeunesse, de l'animation de la vie sociale et bien sûr, on le verra, du numérique. Le deuxième point, c'est une mise à disposition classique de salles d'activité, comme on va retrouver plutôt dans une MJC ou dans une maison des associations, avec 5 espaces dédiés, à la fois de salles de réunion, de formation, de loisirs ou d'activités, avec plus de 42 activités régulières qui sont organisées par semaine, hein, ce qui nous permet d'amener des flux assez importants sur le lieu, autour de 19 000 passages par an. Et puis, on a toute une partie plus lieu de convivialité, lieu d'exposition. Et le dernier point, notre tête de gondole, hein, qui est notre Fab Lab municipal, qui est vraiment le lieu phare de la Dynamo sur lequel on va retrouver le plus de passages.
Samuel Caillot nous présente le lieu comme hybride, ce qui induit, comme il vient de l'expliquer, une diversité d'activités et donc un public très hétérogène qui fréquente le lieu.
C'est pas un équipement de quartier, c'est important. C'est un établissement pour tous les Chambériens où effectivement on va essayer de brasser et de, au quotidien, favoriser de la mixité des usages et des publics. C'est justement un souhait, une philosophie même, je pense, qu'on souhaite garder dans ce bâtiment.
Une question se pose. Est-ce que les usagers du lieu s'y retrouvent et comprennent l'intérêt de ce brassage d'activités et d'usagers au sein de ce bâtiment municipal ? Pour le savoir, nous avons recueilli le témoignage de Marie, Olivia, Quentin et Enzo, utilisateurs quotidiens du lieu.
Le fait que le bâtiment soit municipal, c'est vachement bien parce qu'en fait, on a accès à tous les services de la ville en interne, en fait, directement. On n'a pas besoin de passer par Pierre, Paul, Jacques. On a juste à aller toquer à un bureau et en fait, les gens nous ouvrent leur bureau et c'est bon, en fait, tu poses ta question et t'es nickel. C'est ça qui est incroyable aussi, c'est que le bâtiment est à la fois ouvert à la jeunesse et au numérique. Il aide les gens à se réinsérer parce qu'il y a plusieurs bureaux, il y a toute une partie de la mairie de Chambéry qui est ici en fait. Et ils aident aussi les artistes et tout ça grâce à l'association Possi 33 qui est hébergée dans leurs locaux, qui nous a aidés entre autres pour notre événement, mais qui aide aussi beaucoup de gens parce que vu que c'est une association, bah, ils font plein de choses pour tout le monde en fait. Et c'est ça qui est génial aussi.
Pour terminer cette mise en contexte de la Dynamo, nous retrouvons Samuel Caillot qui nous évoque la genèse du projet ou comment la ville de Chambéry a poussé la création de ce tiers-lieu.
C'est un heureux hasard également d'avoir trouvé ce lieu dans lequel nous sommes, qui est un lieu qui est relativement neuf puisqu'il a été construit en 2002, qui a été un ancien espace jeune, qui n'a pas réussi à trouver son identité. Et donc on a posé nos bagages dans ce bâtiment avec comme commande de la part de nos élus à l'époque presque une carte blanche, hein, faites-en un lieu où la posture du fonctionnaire est plus habile que celle qu'on peut connaître, avec la notion aussi de connecter les acteurs du quartier, mais pas que, le milieu associatif, le milieu entrepreneurial, les habitants du quartier, connectez-les et faites en sorte que dans ce lieu-là, vous puissiez faire émerger des projets dans des domaines qui pourront évoluer à la suite. Donc c'était globalement assez confortable, je ne vous le cache pas, d'avoir une commande politique aussi large qui nous a permis, nous, équipe, de pouvoir construire ce lieu-là chemin faisant, sans vraiment de pression, puisqu'on est dans nos locaux. Donc effectivement, une facilité et une tension que d'autres tiers-lieux, j'imagine, ont de rentabilité, ou en tout cas de faire en sorte de ne pas vivre que sur de l'appel à projet. Et donc le démarrage pour nous a été largement facilité pour construire les bases du lieu, de faire entrer un certain nombre d'acteurs, de proposer de l'activité sans pression.
Vous l'aurez compris, le portage du tiers-lieu par la municipalité permet aux différents services installés sur place de repenser leur fonctionnement, leurs pratiques, mais aussi d'être interconnectés en interne et vers l'extérieur. Nous avons également rencontré Benjamin Louis, adjoint à la mairie de Chambéry, conseiller délégué à l'innovation et au numérique. Il nous avance quelques clés de réussite lorsqu'on monte un tiers-lieu, qui plus est lorsqu'on est une collectivité.
Le tiers-lieu pour le grand public, c'est vrai que c'est une notion qui est encore un petit peu floue, donc les gens ils passent devant, ils ne savent pas trop ce qui s'y passe, donc c'est important justement qu'il y ait des thématiques ancrées, voilà, jeunesse, relations internationales, numérique, parce qu'au moins ça permet d'être clairement identifié. Mais après, il y a vraiment un enjeu de qu'est-ce qui nous relie, c'est quoi l'esprit, c'est quoi l'ADN qui fait que tout ça marche ensemble. Les élus, on donne une impulsion, on donne une intention politique et tout, mais après, il faut vraiment laisser le champ libre aux agents et voilà qui ont envie de le faire. Et il faut surtout pas arriver dans un endroit et dire bon, bah maintenant, vous allez être un tiers-lieu, vous allez travailler comme ça, on va mélanger les services. Il faut que ça soit vraiment des choses spontanées, qui soient faites sur la base de, pas du volontariat, mais faut aller capter les envies pour que ça fonctionne. Après, je pense qu'il faut avoir un peu d'audace aussi, se dire, bon, on va prendre un risque, et il ne faut pas avoir peur de rectifier le tir, ce qu'on appelle le droit à l'expérimentation et le droit à l'erreur. Et puis après, il faut faire confiance aussi, c'est ultra important. C'est-à-dire qu'on la Dynamo, elle naît parce qu'à un moment donné, il y a des agents qui sont motivés, qui sont intéressés par ces questions, et il faut les laisser faire aussi.
Avancer chemin faisant, faire confiance aux agents de la ville, accepter cette notion d'expérimentation, ou encore fonctionner de façon transversale en mode projet. Ce sont des pratiques plutôt innovantes au sein d'une collectivité. Samuel Caillot, directeur Vie associative et tiers-lieux, nous explique comment tout cela se met en place et se coordonne.
On a un élu lié au numérique, on a aussi un élu lié au tiers-lieu. Donc ces deux élus municipaux se réapproprient le lieu, l'intègrent dans une politique publique plus large, la connecte avec d'autres politiques publiques aussi en lien sur les mairies de quartier, avec les bibliothèques qui vont devenir médiathèques, bibliothèques de numérique de référence bientôt. Enfin, on redonne en tout cas une valeur politique au lieu, déjà un, ça c'est une chose, avec des lieux de discussion, avec des temps d'équipe, avec des temps de points entre élus et services. La deuxième chose, on a une amélioration importante à faire sur le travail des usagers du lieu, enfin en tout cas des habitants du lieu déjà, qui se voit régulièrement, mais pour lequel on n'a pas encore de lieu, on va dire, posé pour pouvoir assurer une gouvernance entre habitants. Elle se fait beaucoup au coin café, en mode officiel, mais c'est au coin café qu'est né le Fab Lab, c'est au coin café qu'est né la Microfolie. La gouvernance reste le café, quand même, jusqu'à présent, il faut se le dire, avec du coup cette agilité de pas de contrainte d'une gouvernance trop lourde. Donc chaque idée a pu se transformer assez rapidement. Pour que dans une collectivité, on puisse coordonner ce type de lieu, il faut faire preuve l'équipe d'une certaine agilité et certains pas de côté. C'est-à-dire qu'on n'est quand même pas dans notre environnement de fonctionnaire classique. Donc faut quand même avoir cette envie et cette appétence à faire le petit pas qui nécessite de se dire je me décale en gros de mon bureau, je vais à la rencontre des partenaires, je ne considère pas que comme usager les gens que j'ai en face, mais bien comme partenaire pour co-construire quelque chose, et donc d'être aussi dans une fonction d'accueil qui n'est pas un accueil avec un service direct comme une bibliothèque ou comme une piscine ou autre, mais qui est d'un accueil dans un lieu de vie et d'un lieu de projet. Donc ça a nécessité quand même de se réinterroger sur nos pratiques. Alors cette acculturation devient une norme, en tout cas dans les fiches de poste qu'on peut proposer à nos agents.
Benjamin Louis, élu conseiller délégué à l'innovation et au numérique, nous évoquait en début de podcast l'importance de construire une identité forte pour être bien identifié sur le territoire. Ainsi, il faut construire une feuille de route et fixer des objectifs pour trouver sa place dans un écosystème existant. Il a choisi de nous expliquer comment la thématique du numérique est traitée aujourd'hui à la Dynamo.
Ce qu'on essaye de faire, c'est de faire de la Dynamo, qui a un tiers-lieu, et d'en faire un petit peu le camp de base de l'inclusion numérique sur tout le territoire chambérien. Il y a beaucoup d'acteurs qui traite de la question du numérique, de l'inclusion. L'idée, c'est pas tout englober et tout ramener ici, mais c'est d'avoir un acteur qui a une vision d'ensemble territoriale sur toutes ces questions-là. En fait, il y a trois grandes ambitions sur le numérique. Alors déjà, l'idée, c'est de travailler le numérique, un numérique accessible à toutes et tous, inclusif. Et puis après, il y a aussi d'autres enjeux sur le numérique, sur une partie, on va dire, un peu plus tech. C'est comment aussi les outils numériques nous aident à déployer nos politiques publiques sur d'autres thématiques. On est attaché à la transition écologique, donc comment les outils numériques vont pouvoir nous aider, soit à conscientiser les citoyens sur leurs impacts environnementaux, soit également mesurer des choses, comprendre, éviter le gaspillage, quelles sont nos consommations, mesurer la qualité de l'air. C'est l'expérimentation. On essaye, on regarde comment ça fonctionne, et puis si ça roule, on déploie. Et puis sur le dernier point, la dernière ambition, c'est aussi fédérer un écosystème d'acteurs. Et comment nous, collectivités, on essaye aussi d'emmener les entreprises innovantes dans cette aventure-là. Et en fait, quand on voit toutes ces ambitions, ce qui est hyper intéressant, c'est d'arriver à mixer des choses, c'est-à-dire à développer des projets. Alors ça, on aime bien dire qu'il coche plusieurs cases. Donc, on travaille avec un acteur privé qui propose une solution. Et en même temps, on emmène un projet d'inclusion avec des jeunes.
Désormais, nous allons retrouver Marie, Olivia, Quentin et Enzo. Initialement inscrits à la mission locale jeune et sortis du système éducatif, ils et elles suivent une formation préqualifiante afin de favoriser leur inclusion socio-professionnelle par les métiers du numérique. Les jeunes que nous retrouvons nous évoquent leur parcours et comment la formation s'inscrit dans la dynamique tiers-lieu municipal qui mêle inclusion numérique, jeunesse et internationale.
Chacun a pu créer ou travailler sur ce qu'il voulait. C'est un peu à la carte, comme ils disent, donc on touche à tout. Et en même temps, ça permet de savoir ce qu'on aime ou pas, quoi. Moi, c'est le design et l'audiovisuel.
Alors moi c'était plus, je sortais vraiment de un an de chômage où je faisais pas grand chose quoi. Je pensais pas du tout refaire une formation ou même repartir à l'école ou des choses comme ça, un petit peu pédagogique, encadrer, etc. Mais en tout cas, ça m'a mis dans une bonne dynamique vraiment positive. Enfin, j'étais vraiment quand même content de retrouver des gens, de revoir des potes.
Il y a aussi une dimension un peu internationale ici. Vous, comment elle s'est inscrite dans votre parcours ?
Bah, par exemple, la formation qui elle-même était financée par le programme Interreg Alcotra, qui est un programme européen qui vise à financer des formations en relation avec plusieurs pays. Donc par exemple ici, TeenLab, c'était un projet franco-italien.
On revient là de 2 jours à Turin. C'était trop cool parce qu'on a visité plein de choses, notamment le Fab Lab de Turin. C'est l'un des plus grands d'Europe, il est gigantesque. On a su qu'ils ont fait plein de projets, etc. Et c'est, franchement, c'était hyper instructif.
Tu sentais que par contre là-bas, il y avait beaucoup de budget aussi et beaucoup de...
Ouais. Ouais, mais au contraire d'ici, eux là-bas, c'est un Fab Lab qui n'est pas municipal. Oui. C'est une association et justement, on a beaucoup de chance d'avoir celui-là ici parce que on paye quasiment rien quoi, pour créer des choses, alors que là-bas, bah, c'est 800 euros l'année. Quoi. Donc, ça n'a pas le même coût budgétaire. Et il y en a très peu des Fab Labs en France qui sont municipaux. Donc c'est davantage trop cool d'être ici. Je pense que c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on en profite.
Le Fab Lab, parlons-en. Il a été décrit comme une tête de gondole du tiers-lieu. Mais qu'en est-il vraiment ? Qu'est-ce qu'il apporte à la Dynamo ? Benjamin Louis nous répond.
Pour moi, le Fab Lab, c'est l'outil qui va permettre de reconnecter à la sphère du faire. C'est-à-dire d'un outil numérique, d'une utilisation... On va concrétiser, on va rentrer, on va matérialiser les choses. Donc avec tout ce qui gravite autour, hein, il y a la notion de créativité, de faire soi-même, de réparer des choses. Et puis ce qui est ultra intéressant, c'est l'esprit qu'il y a autour des Fab Labs qu'ils ont su développer, c'est ce qu'ils appellent l'esprit maker. C'est de se dire, on crée des choses ensemble, on les partage, c'est ouvert, l'open source, c'est toutes ces valeurs-là qui sont aussi intéressantes. Et quand un jeune vient ici, eh ben, à travers, il va customiser ses baskets ou un t-shirt et tout. Mais il y a tout ça qui est derrière et qu'on lui apporte aussi sans qu'il s'en rende forcément compte.
Plusieurs fois cité par l'équipe de jeunes, le Fab Lab est un formidable outil d'expérimentation. Il fait le lien entre le théorique et la pratique dans leur formation. Nous les écoutons à ce sujet.
On a appris à manier plusieurs logiciels, donc des logiciels de bureautique, de graphisme, même c'était surtout des logiciels libres. C'est les équivalents de Photoshop, tout ça, mais gratuitement, parce que ça leur tenait vraiment à cœur qu'on puisse, nous, même après la formation, pouvoir continuer à faire ce qu'on voulait. Sans devoir payer une licence de logiciel. Donc ça, c'était vachement bien. La formation, elle s'est déroulée sur 220 heures et sur 30 heures de Fab Lab, qui elle-même était découpée en 24 heures en cours et 6 heures où on pouvait venir librement au Fab Lab. Et c'était 6 heures ou plus, donc voilà.
Et tout ce qu'on apprenait, par exemple, sur la vidéo, sur les réseaux sociaux, sur le code ou les sites internet, on les mettait en pratique pour créer notre événement à la fin de la formation. On a un bon système, justement, là, on a la possibilité, c'est notre choix, de faire des open badges. Et du coup, ouais, c'est des petites certifications qui font qu'on sait maîtriser une telle machine du Fab Lab ou tel logiciel. Et on s'est investi des heures en plus de la formation. Hein. On a travaillé chez nous beaucoup de temps aussi au Fab Lab en plus. Et après, on peut venir en fait autant de temps qu'on veut. C'est ça aussi l'avantage de la Dynamo, c'est qu'on est libre.
C'est désormais au tour de Samuel Caillot, directeur du tiers-lieu, de nous vanter les mérites de ce Fab Lab municipal.
Le Fab Lab aujourd'hui, il a cette vocation aussi à aller chercher d'autres publics, pas le public classique qu'on peut trouver. On a plus de 1400 passages par an, donc pour une année d'exploitation, c'est pas mal. 140 ateliers d'organiser sur l'année. Donc ça repose aussi sur des personnages, hein. On a un Fab Manager qui est assez extraordinaire, il faut le dire. C'est-à-dire que, en tout cas sur le Fab Lab, c'est une évidence que ça joue beaucoup sur la personnalité des encadrants et des pédagogues, ça c'est une certitude. Et à la votre question, effectivement, comment impliquer les agents de la ville? Alors on a un exemple là, tout récent, où les services techniques de la ville viennent expérimenter, ils étaient là tout à l'heure d'ailleurs, viennent expérimenter des maquettes pour des aménagements plus importants qu'il pourrait y avoir dans la ville. Donc on a cette fonction effectivement aussi d'amener nous en interne. C'est pareil, un Fab Lab municipal se fait l'effet d'une bombe hein, dans une collectivité. La culture de ces lieux-là n'est pas encore complètement acceptée comme un service public au quotidien, comme un CCSTI, une médiathèque ou autre. Donc on a fait ce travail aussi de connaissance, de faire venir nos directeurs généraux, de faire venir nos élus pour les acculturer aussi à ça. Et globalement, ça match à chaque fois. C'est-à-dire qu'il y a l'effet surprise quand même du Fab Lab. C'est impressionnant, la machine laser, l'imprimante 3D. Il y a un côté magique. Et c'est vrai que ça match. Et on voit très vite l'intérêt pédagogique et utilitaire qu'il peut y avoir.
Lancé grâce au dispositif Fabrique numérique de territoire, Benjamin Louis nous évoque les futurs enjeux qui gravitent autour du Fab Lab et de son animation.
Se pose la question après de la pérennisation. C'est-à-dire, on a créé le lieu, il y a plein de monde. Le Fab Manager, il est financé par une enveloppe à 3 ans. Qu'est-ce qu'on fait après? Et je pense que c'est là où les élus, les services de la ville, on doit être vigilants. C'est, on crée des choses, mais il faut toujours anticiper l'atterrissage derrière. C'est-à-dire que là, typiquement aujourd'hui, on est en train de réfléchir de comment on va pérenniser le poste de Fab Manager. Donc on est persuadé qu'il faut le garder et qu'il y a un vrai intérêt. Alors soit on va réussir à émarger sur d'autres appels à projets qui vont nous permettre de le financer, soit de l'intégrer directement au sein des effectifs de la ville.
Nous arrivons déjà au terme de cet épisode. Un grand merci à Benjamin Louis, Samuel Caillot, à Marie, Olivia, Quentin, Enzo de TeenLab et Elsa Chapelle, coordinatrice du tiers-lieu, sans qui la création de cet épisode n'aurait pu être possible. On se retrouve bientôt avec le prochain tiers-lieu, direction Marseille à Foresta. Et pour clôturer cet épisode, nous laissons le mot de la fin à Samuel Caillot, directeur des tiers-lieux de Chambéry.
La collectivité est quand même une force de frappe énorme qu'on a tendance à oublier. C'est pas uniquement la collectivité qui délivre des papiers, mais c'est aussi une collectivité qui produit du projet, des aventures et qui peut être aussi un acteur dans l'état d'esprit d'un tiers-lieu tel qu'on peut l'entendre.